Quotidien avec Hélène Denis.
Non, mais quel début de semaine. Bordée de neige inattendue. Hein? On attendait 5 cm. Finalement, il en est tombé 20 dans la grande région métropolitaine. Panne d'électricité, école fermée en ce jour du souvenir, 11 du 11 2025. On s'adapte, hein? On n'a pas le choix. Mais ce qui est positif, si je puis dire, c'est que la beauté du paysage est à couper le souffle et nous apaise un petit peu. Je me croyais dans une BD d'hiver signée Michel Rabagliati. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Hélène. Bonjour, tout le monde.
Ça s'est bien passé pour vous, la venue au travail?
Ben oui.
Oui, à pied?
Oui.
Pas trop glissant?
Non, franchement. Non.
Vous avez rien remarqué de particulier, à part la neige et la glace?
Quelques branches
ah oui,
cassées.
Hein, qui ploient sous le poids de cette neige lourde.
Je suis venu à pied, mais j'ai pensé mettre mon casque de vélo au cas où qu'une branche me tombe sur la tête.
Puis vous ne l'avez pas fait?
Je ne l'ai pas fait.
Non, parce que habituellement vous portez vos lunettes de ski pour protéger les yeux
des grands vents. Quand je suis en vélo,
oui. Mais pas à pied.
Mais non, je marche pas assez vite pour ça.
Alors, bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Un grand merci d'être là. Merci aussi à Denis Martin Chabot, qui est pas mal là de ces temps-ci. Et je l'apprécie énormément. Et donc, il sera de retour à ce micro dans les prochains jours, d'ailleurs. À l'émission aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour vous? La chronique livre, en compagnie d'Anne-Marie Aubin, qui va, elle, nous parler de deux livres qu'elle a trouvés passionnants. Livre jeunesse, Kouba, de Laurie Léveillé, qui a été grand gagnant du prix littéraire du gouverneur général catégorie jeunesse, et aussi Les Déterrés par Katia Belkodja, lauréate du prix du gouverneur général catégorie roman et nouvelles. Aussi la chronique économie avec Michel Poitevin, Michel qui nous parlera de la vision économique du gouvernement de François Legault qui a été annoncée hier. La fête des voisins au travail en novembre, c'est une initiative du Mouvement Santé mentale Québec et on en parlera avec quelqu'un que vous connaissez bien, notre collègue Chantal Doré qui sera avec nous. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Stéphane Poirier, bien, vous allez le connaître vers 9h46 dans ces eaux-là. Stéphane Poirier sera avec nous, ou en fait au bout du fil, pour nous présenter son parcours en tant qu'humoriste et aussi les 10 ans des soirées à Poirier qu'il souligne cette année.
La nuit amène
De son disque 4 saisons dans le désordre, c'était Daniel Bélanger et Je fais de moi un homme.
Oui, 4 saisons dans le désordre, ça fonctionne bien. Hein? On se pense le 11 décembre aujourd'hui, mais on est le 11 novembre. La première bordée de neige importante a causé la fermeture de centaines d'écoles dans le sud du Québec, tandis que plus de 362 000 foyers étaient toujours privés de courant mardi matin. C'est dans la presse plus. On rapportait vers 9h30, donc il y a quelques minutes à peine, que 362 288 foyers étaient touchés par environ un millier de pannes d'électricité. La région la plus touchée est la Montérégie avec 107 340 adresses, Lanaudière, Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le centre du Québec, les Laurentides, Laval et la Mauricie sont également au nombre des régions touchées. Le centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, qui dessert quelques 18 000 élèves, a notamment annoncé la fermeture de ses 39 établissements, dont 31 écoles primaires. Le territoire de ce CSS couvre les municipalités régionales de comté d'Acton et des Mascoutins et s'étend de Sainte-Madeleine à l'ouest jusqu'à Sainte-Christine à l'est. Le centre de service scolaire des Patriotes, basé à Saint-Bruno-de-Montarville et qui regroupe 66 écoles primaires et secondaires, a également décidé de fermer une vingtaine d'entre eux. Le CSS des Samars dans la Naudière a également prévenu tôt ce matin que 20 de ces écoles verraient leurs cours suspendus. C'est vraiment la météo des dernières heures qui a causé les pannes. Avec le vent, de la végétation est tombée sur le réseau, a expliqué Paul Veilleux-Turcotte, porte-parole d'Hydro-Québec, en entrevue avec la presse lundi soir. Alors, si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez bien au chaud à la maison parce que c'est quand même hasardeux. Hein? Les routes sont enneigées, il y a des routes glacées, il y a eu de la pluie verglaçante également. Et puis, si je vais voir les journaux à la une du Journal de Montréal, loi demain pour la fin du chaos. Le ministre Jean Boulet demande la collaboration des autres partis à l'Assemblée nationale pour lui donner dès demain le pouvoir de mettre fin au chaos qui perdure depuis une dizaine de jours à Montréal à cause de la grève à la Société de transport de Montréal. Selon ce que notre bureau parlementaire a appris, écrit Marc-André Gagnon, le ministre du Travail veut faire adopter de façon accélérée demain une pièce législative. Cela permettrait de devancer la mise en application de la loi 14, limitant le droit de grève et élargissant la notion de service essentiel. Adoptée au printemps dernier, cette loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout de Jean Boulet devait entrer en vigueur le 30 novembre, mais le gouvernement caquiste a usé ce qui lui restait de patience face à la grève des employés d'entretien à la STM. Elle paralyse les services de métro et d'autobus hors des heures de pointe depuis le début du mois. De surcroît, une grève des chauffeurs s'annonce de nouveau en vue du week-end prochain. Le devancement de l'entrée en vigueur de la loi n'empêcherait pas tout moyen de pression, mais forcerait les syndiqués à réduire les périodes où la population est privée de services. La semaine dernière, M. Boulet avait prévenu qu'il envisageait sérieusement de devancer la prise d'effet de sa loi. Il voulait intervenir si aucune entente n'était conclue à l'expiration du délai de 10 jours lancé par Soraya Martinez-Ferrada après sa victoire à la mairie de Montréal. Le gouvernement Legault refuse toutefois de procéder par une loi spéciale adoptée sous Bayon, comme il l'a fait avec la loi imposant un nouveau mode de rémunération aux médecins. Selon nos informations, la coalition Avenir Québec mise plutôt sur une procédure accélérée qui requiert le consentement des partis d'opposition. Cette méthode permettrait de faire cheminer la loi rapidement pour qu'elle entre en vigueur le jour même, sinon le lendemain. Si on veut faire une adoption accélérée de ce projet de loi, ça prend leur collaboration, donc ils auront à prendre une décision, expliquait le ministre Boulet la semaine dernière. Or, Québec solidaire, qui s'oppose à la loi 14, refuse de devancer sa mise en application. QS plaide plutôt pour la négociation et un réinvestissement massif dans le transport collectif. À la une du Devoir maintenant, la vision économique de François Legault, Économie québécoise. Legault reporte la transition énergétique de 4 ans. Pas question d'utiliser les surplus du fonds vert pour faire baisser l'impôt ou le prix de l'essence, affirme le premier ministre du Québec. Aussi à la une du Devoir, lente par définition la démocratie. Dans la nouvelle édition de l'État du Québec, sous-titré « Penser le temps autrement », L'Institut du Nouveau Monde s'intéresse à notre rapport au temps et à son lien avec la démocratie. Et santé publique, le Canada perd son statut de pays ayant éliminé la rougeole, la couverture vaccinale en déclin depuis la pandémie serait en cause. Et puis, à la une de la presse plus, pour terminer, on parlait dans la mise à jour de tout ce qui a rapport avec cette bordée de neige. Et puis, à la une, on peut lire « Au volant, avec un permis suspendu, les autorités ont remis 4 800 contraventions depuis 10 ans à des chauffeurs qui conduisaient leur poids lourd avec un permis suspendu ou révoqué », révèle une analyse de centaines de décisions de la Commission des transports menée par la presse. C'est à lire dans la presse d'aujourd'hui une enquête de Tristan Péloquin. Une analyse de 672 décisions rendues par la Commission des transports du Québec met la lumière sur une des infractions les plus fréquentes commises par les camionneurs, conduire avec un permis suspendu.
Un jour, tu es de moi, première fois que t'agis comme ça. Mais demain, je serai plus rien. Est-ce que c'est déjà la fin? À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. Un jour tu reviens, première fois que ça me fait plus rien. Plus capable, c'est assez. Le fake, je peux plus supporter. À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Mais à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. So tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire semblant de m'aimer, même si c'est pas la vérité? I'm so tired of my fake friends. So tired of my fake friends, fake friends. À quoi tu penses que je vais me laisser emporter par tes mots? Et à quoi tu penses? Je veux plus jamais endurer ton ego. I'm so tired of my fake friends. Tu pars et tu reviens quand ça te convient. I'm so tired of my fake friends. Chaque fois c'est le même jeu, le même refrain. Pourquoi faire ça?
Fake Friends, une chanson de Billy Dupage ou Dupage.
Dupage.
Dupage,
oui.
Bon.
Elle remportait le Félix Révélation de l'année au Gala de la Disque de dimanche. Au bout du fil, l'humoriste Stéphane Poirier qui célèbre cette année ses soirées, les soirées à Poirier, 10 ans cette année. Bonjour Stéphane.
Bien le bonjour.
Merci d'être avec nous. Avant de parler de vos soirées, on aimerait faire connaissance avec vous. Parlez-nous de vous, de votre parcours en humour. Ça a commencé quand?
Oui, c'est ça. Ben, ça fait déjà un petit bout. Je célébrais dernièrement mes 20 ans de carrière. Donc là, ça fait déjà, ouais, c'est ça, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai fait beaucoup de choses quand même. J'ai porté plusieurs chapeaux. Je suis auteur, entre autres, pour plusieurs humoristes, pour les galas Juste pour rire, entre autres. J'ai fait les premières parties de Sugar Sammy pendant 10 ans. Je suis allé en France avec lui. Sinon, ben, je produis des soirées d'humour. Et voilà, on ne s'ennuie pas.
Non, je vois ça. Et comment vous décririez l'esprit d'une soirée à Poirier, là? Qu'est-ce qui se passe pendant vos soirées?
Ben, en fait, c'est très simple. J'ai toujours été un fan un peu de style d'humour, un peu comme dans les comédies clubs. Et j'aime quand il y a plusieurs invités plutôt qu'une tête d'affiche, par exemple. Là, je trouve qu'il y a un meilleur rythme. Donc, ce qu'on peut retrouver, c'est vraiment une enfilade d'humoristes de qualité, une ambiance de feu. Je m'arrange toujours. Moi, je fais l'animation toujours de mes soirées, donc je m'arrange toujours pour que l'ambiance soit à son comble, pour que le premier invité arrive, puis que déjà la table est mise pour lui ou elle.
Mm-hmm. Et votre programmation mélange des humoristes connus et des artistes de la relève.
Exactement.
Diriez-vous que la relève a du talent?
La relève est très, très forte.
Oui? Ah oui?
Les humoristes établis ont de la pression quand ils viennent sur les soirées parce qu'ils voient les jeunes
performer.
Puis ils font « Oh, OK, là... » Oui,
faut pas que je m'assoie sur mes lauriers.
Oui, exactement. C'est ça que j'aime. C'est de voir... pas une compétition, mais juste, tu sais, des fois, ça touche leur orgueil un peu, puis ils font comme, OK, ben, je peux pas m'asseoir dessus, là. Faut que je performe moi aussi, là, tu sais. Fait que je trouve ça beau de voir ça.
Et parmi les humoristes connus qui ont fait partie de vos soirées, mais qui ont 10 ans, là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms pour nous donner une idée de qui vous invitez?
Oui, j'ai eu la chance. Ben, juste cette saison, je peux vous dire ceux qui sont passés dernièrement sur quelques-unes de mes soirées. Ouais. J'ai eu de la chance de recevoir Patrick Groulx. J'ai eu la chance de recevoir Dominique Paquet, Daniel Grenier, qui sont venus faire leur tour. La saison passée, j'ai eu Mariana Mazza qui est venue roder pour son spectacle qui est sorti la semaine dernière. Mm-hmm. Donc, j'ai la chance d'avoir des humoristes très établis qui m'appellent pour me dire « J'ai besoin de rodage. Stéphane, peux-tu me faire de la place sur une couple de tes soirées? » J'ai la chance d'en avoir une dizaine. J'ai une dizaine de villes comme ça où j'ai des soirées mensuelles ou bimensuelles, là, selon les endroits. Donc, les humoristes me font confiance. Ils m'appellent et puis je leur fais de la place puis ça donne des soirées magiques.
Et les artistes de la relève, comment vous les repérez?
Ah ben ça, je suis très à l'affût de ce qui se passe. Je regarde toujours quand je vais voir, quand je vais dans des soirées, moi-même comme invité, je regarde c'est qui les autres. Aussi, j'ai mes, comment qu'on dit, des scouts, là, comment? J'ai mes, comme au hockey.
Des espions?
Deux, trois personnes.
Ah, ouais, des repêcheurs!
Exact, exact. Ouais. J'ai deux, trois personnes qui travaillent dans des comédies clubs et qui regardent les open mic, qui regardent c'est qui les prochains qui s'en viennent, puis ils me font un compte-rendu à chaque année de ceux que je devrais peut-être penser booker sur mes soirées.
Et qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Stéphane Poirier?
Oh mon Dieu, on ne m'a jamais posé cette question-là en 20 ans.
C'est ce matin que ça se passe.
Ben oui, ben c'est une excellente question. Ben moi, je suis un excellent public.
Ah oui?
Dire, là. Oui, oui. Moi, je suis un fan d'humour. C'est pour ça que je pense que mes soirées fonctionnent. C'est que j'offre au public une soirée que j'aurais aimé assister. Donc, je suis très bon public. J'aime le stand-up classique. Mais je dois avouer que j'ai un petit penchant pour des humoristes qui sont un peu plus champ gauche, comme Daniel Grenier, justement, ou Dominique Paquet. Quand il part dans des folies, ça me fait toujours rire, même si je le vois, je peux voir ses numéros 10 000 fois, puis je vais encore rire.
Ah oui, ah oui. Comme, ben, ah oui. L'humour qu'on pourrait qualifier d'absurde.
Oui, absurde, mais accessible. Tu sais, pas trop absurde, mais tu sais, juste un peu champ gauche. Oui. Juste un peu, tu sais, qu'on voit pas venir. Tu sais, veut pas, moi, ça fait 20 ans, puis j'écris. Fait que souvent, les humoristes qui font du stand-up dans mon style à moi, ben, tu sais, je veux un peu voir où ils s'en vont. Je veux un peu voir, c'est normal, tu sais, c'est mon travail, là, tu sais, mais des humoristes comme Dominique Paquet et Daniel Grenier réussissent toujours à me surprendre, là, tu sais.
Et les soirées à Poirier sont réparties à travers plusieurs villes, Richelieu, Terrebonne, Farnham, Saint-Lazare, etc. Pourquoi c'est important pour vous de faire vivre l'humour à l'extérieur de Montréal?
Ben, écoutez, je suis un gars qui a grandi en région. J'ai grandi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Ensuite, j'ai déménagé à Sainte-Thérèse, Laval. Et ensuite, j'ai traversé l'île. Là, je suis rendu à Richelieu, sur la rive sud. J'ai jamais habité sur l'île en soi. Je n'aime pas aller sur l'île. Je n'aime pas aller à Montréal, le trafic, le stationnement. Et je me suis dit, pourquoi pas offrir des soirées de qualité comme on offre sur l'île, comme au Bordel Comedy Club, qui est une place incroyable.
Mais c'est à Montréal. C'est
là, à l'extérieur de Montréal, pour que les gens puissent avoir ça chez près de leur maison, mm-hmm. Là, pour pas avoir à aller sur l'île, là, pour c'est ça. Parce que pas tout le monde qui aime ça, là, le trafic. Là.
Ben surtout par les temps qui courent, là.
Oui, exactement. Ouais.
Alors après 10 ans, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le public québécois pour vos soirées d'humour? Est-ce que l'auditoire régional réagit différemment du public montréalais? Est-ce que vous êtes en mesure de voir ça?
À l'époque, il y avait comme une espèce de snobisme envers justement les soirées d'humour en région, mais il faudrait que ça se passait dans des bars, si les gens étaient sous. Moi, c'est des soirées dans des salles ou des c'est plus une ambiance comedy club dans des petites salles. Donc c'est un public plus respectueux. J'ai un public peut-être un peu plus aussi âgé. Ben, j'ai des gens de ma génération, peut-être plus. Là.
C'est-à-dire 40, 35, 40?
Okay. Là,
puis de toute façon, les gens, même si ça se passe dans un bar, les gens consomment beaucoup moins qu'avant. Là.
Ben, exactement. J'ai remarqué ça. Mais j'ai remarqué aussi que la culture de l'humour s'est vraiment bien installée. Donc maintenant, il n'y en a plus de public désagréable ou de en tout cas j'en ai pas dans mes soirées.
Puis de toute façon l'humoriste en principe est capable de gérer sa salle là. Il a l'esprit un esprit d'improvisateur en général.
Exactement, ouais. Mais on essaie d'éviter ces situations-là. Ouais. Ça arrive encore, c'est sûr, ça arrive partout. Là. Dans des salles de spectacle, ça peut arriver, là, que quelqu'un de désagréable, mais je te dirais que ça arrive de moins en moins, puis le public est vraiment plus une ouverture d'esprit également, j'ai remarqué ça.
Ah oui, ouverture d'esprit, wow!
Je prends ma soirée d'humour la plus vieille, quelques 10 ans, justement, à Richelieu, où j'habite. C'est un public, j'ai toujours dit que ça s'éduquait, leur offrir un humoriste un peu plus absurde, tu sais, tranquillement, puis leur faire comprendre que c'est pas parce que l'humoriste n'est pas connu qu'il n'est pas drôle. Ça, c'est quelque chose que j'ai installé, puis que je vois en 10 ans, là, vraiment, une ouverture d'esprit. C'est flagrant, là. Oui, oui.
Donc, c'est important, votre rôle d'animateur, pour bien encadrer chacun des invités, chacune des invités de vos soirées.
Ben totalement. Puis moi, mon rôle, c'est que chacun performe. Moi, le but, c'est que les 4 aient du plaisir, puis les 4, tu sais, il faut pas qu'il y en ait juste un qui soit bon, puis les autres se plantent. Là, mm-hmm. Ça fait pas une belle soirée. Là, fait,
il y en a toujours 4?
Tout le monde en valeur.
Il y a toujours 4 humoristes par soirée?
Oui, en général, c'est 4. J'ai quelques soirées que c'est 3, mais c'est toujours 3 ou 4 humoristes. Là.
Et d'une fois à l'autre, est-ce que ça change? D'un lieu à l'autre?
Ben exact. Selon les disponibilités des humoristes, chaque show est différent.
Oui. Alors on peut assister à toutes les soirées puis découvrir des humoristes à chaque fois.
Ben moi je conseillerais de rester dans votre ville parce que évidemment, mettons, si Dominique Paquet vient à Saint-Eustache, ben ça se peut qu'il soit aussi à Richelieu après. Tu sais.
Okay.
Mais ça sera jamais les 4 mêmes, ça c'est impossible mm-hmm. là, à cause des horaires. Ils sont occupés, ces petites bêtes-là, quand même. Là.
Mais tant mieux pour eux et ben pour oui, elles, parce qu'on parle de bêtes ici. Stéphane, vous êtes humoriste, vous êtes auteur, script éditeur. Comment vous réussissez à concilier votre travail d'auteur puis vos autres projets de scène?
Mon Dieu, dans l'équilibre, je dirais, je choisis mes contrats d'auteur. J'ai le luxe de pouvoir le faire maintenant, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a quelques années. Donc là, je choisis vraiment les personnes avec qui j'ai le goût de travailler, puis aussi selon le temps que j'ai, parce que je dois vous avouer que mes soirées prennent beaucoup de mon temps. C'est beaucoup de gestion de gérer autant de soirées, parce que c'est moi qui fais, je fais tout. Là. C'est moi qui fais la facturation, le booking, la production, l'animation. Donc ça fait beaucoup de chapeaux à porter. J'ai de l'aide à chaque salle, chaque ville, j'ai des équipes là, que j'ai formées, pas que j'ai formées, mais qui m'ont engagé. Sinon, je fais tout le reste quand même assez seul. Donc, je dois choisir mes contrats méticuleusement pour m'assurer d'avoir le temps de bien le faire.
Et après 10 ans de soirée à Poirier, comment vous voyez l'avenir?
Ben, on aimerait ça rentrer dans les salles de spectacle, rentrer dans le monde des diffuseurs, là, plus les salles un peu plus grosse, là, tu sais, si j'ai le droit de rêver un peu.
Pourquoi pas?
Ben oui, pourquoi pas. Et éventuellement, j'aimerais former un espèce de gala annuel, un gros spectacle annuel qui serait le best-of de la saison, les galas à Poirier, que j'appellerais, un peu comme un gala juste pour rire, mais mm-hmm. en meilleur.
Ben, on vous le souhaite. Alors, ben oui. Bien, bravo pour vos 10 ans. 10 soirées à Poirier dans 10 villes différentes. Richelieu, comme je le disais, Saint-Lazare, Bar-chez-Maurice, que j'ai fréquenté adolescente.
Ah, oui.
Et
ben oui.
si on veut avoir des billets, on procède de quelle façon?
Ben, le mieux, la programmation de novembre est sur mon site, okay. stéphanepoirier.com, et il y a les liens pour chaque billetterie de chaque soirée. Fait que, vous prenez la ville près de chez vous et le lien va être là. S'il reste des billets, parce que j'ai beaucoup de soirées qui sont sold out bien en avance.
Bon, alors on ira faire un tour sur votre site pour voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a des billets dans les endroits où sont présentées vos soirées. Merci beaucoup, Stéphane Poirier.
Ben, merci à vous, c'est très gentil.
Bonne journée, à la prochaine.
Bye.
À venir, un classique de Beau Dommage qui va bien avec cette journée. Et tout de suite après, la chronique économie avec Michel Poitevin qui nous parle de la vision économique du gouvernement Legault.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On s'est promené dans les vitrines, on a trouvé un magasin qui sentait l'Orient. On a marché toute la soirée, tes potes faisaient mal aux pieds, les vieux chinois nous regardaient, nous autres on souriait. La première neige est tombée sur les Chinatown. Les rues sont glissantes, y'a un accident au coin de Saint-Hubert et Jean Talon. Dans l'escalier de ton appartement, ta main cherchait ta clé en tremblant. Les voisins d'à côté criaient, tout de suite on est entré. On voyait la neige tomber. Tu m'as demandé combien de temps l'hiver allait durer. La première neige est tombée sur le Chinatown. Au coin du boulevard, puis la 22e, ils ont trouvé un char abandonné.
La chanson Chinatown.
Michel Poitevin est avec nous, en fait, au téléphone pour sa chronique économie, à l'abri de la neige, j'imagine bien. Je l'espère pour vous, Michel.
Oui, tranquillement à la maison, en attendant que la chanson se réalise et que le lendemain, la neige
disparaisse. Pas besoin de pelletage. Alors, Michel, gros projet ce matin. Hier, le premier ministre François Legault a présenté sa vision économique pour le Québec.
Oui, donc trois points ont retenu mon attention là, au cœur de la vision de M. Legault et de ses ministres. Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle, là, mais il y a des investissements de 200 milliards là, dans les 10 prochaines années en énergie, entretenir des infrastructures, mais aussi en bâtir de nouvelles. Puis, évidemment, on veut se servir de toute l'énergie supplémentaire pour attirer des industries, par exemple des centres de données, des industries manufacturières là, qui seraient énergivores. C'est certainement un atout pour le Québec d'avoir autant d'énergie propre puis à un coût qui est quand même assez faible si on se compare avec ailleurs. Donc, je pense que c'est une bonne idée de développer nos infrastructures énergétiques là, pour attirer des entreprises. Donc ça, Hydro-Québec, c'est le premier volet. Là, que ça fait des décennies qu'Hydro-Québec est un peu au cœur là, du développement du Québec. Là, on peut penser aux alumineries dans le passé. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, la défense. Bon, avec le budget fédéral, on en a parlé. Le fédéral va investir massivement dans la défense. Qu'on soit d'accord ou pas, on a peut-être, je dirais, des obligations internationales. On est membre de l'OTAN, puis il y a des engagements qui ont été pris puis qui n'ont pas été respectés là, dans le passé. Donc, il faut augmenter nos dépenses en défense. Puis si on est pour le faire, bien aussi bien de faire profiter nos entreprises locales. Puis au Québec, on est relativement bien placé. Là, on a la Davy à Sorel qui peut construire des bateaux, des sous-marins, bombardiers avec des avions. Puis il y a General Dynamics, une compagnie à Repentigny là, qui construit, qui bâtit ou produit des obus. Alors, je pense que le ministre Legault aimerait bien qu'une partie de la manne fédérale retombe sur ses entreprises et d'autres. Là, ça en est certain. Là, M. Legault a identifié d'autres entreprises également. Là, ça, ce sont peut-être les principales qui pourraient bénéficier de ce nouvel argent investi. Puis, il y a toujours des retombées. On peut critiquer la défense, mais en général, puis on peut se servir des États-Unis comme exemple. Les investissements en défense ont des retombées parce qu'il y a des innovations technologiques qui finissent par percoler dans le civil. Alors, donc, je pense que c'est de bonne guerre là, de dire de pousser de l'avant nos entreprises.
C'est le cas de le dire.
Oui, c'est ça. Exactement. Je fais des jeux de mots sans m'en rendre compte. Et puis finalement, celle-là, bon, je suis moins chaud, la Caisse de dépôt et de placement. M. Legault aimerait...
Le bas de laine.
Le bas de laine des Québécois, oui. Il aimerait qu'elle investisse plus au Québec. Mais la Caisse a déjà presque 20% de son actif investi au Québec, ce qui est quand même énorme, là, parce que dans toute stratégie d'investissement, on va essayer de se diversifier au niveau national et également international. L'économie du Québec, là, à l'échelle mondiale, c'est minuscule, alors qu'on a 20% de notre bas de laine dans l'économie du Québec. C'est quand même beaucoup, mais semble-t-il, c'est pas assez aux yeux de M. Legault. Si on se compare, investissement RPC, qui est l'équivalent de la Caisse de dépôt, mais pour le Canada, a investi 10,5% de son actif au Québec. Donc, on a un fort biais vers le Québec. Pas sûr que c'est une bonne idée d'investir plus. On peut se demander pourquoi, mais il faut se diversifier. Comme vous l'avez dit, c'est le bas de laine
des Québécois.
Des Québécois. Et puis, c'est pas l'argent de Legault, c'est l'argent des travailleurs et des retraités du Québec.
Ouais.
C'est pas à M. Legault à prendre des risques à leur place en disant qu'on va surpondérer nos investissements en faveur du Québec. Là. C'est pas le rôle de la Caisse de dépôt. Puis peut-être qu'il y a des tensions dans les négociations avec la Caisse, parce que hier, à l'annonce de la vision de M. Legault, le PDG Charles Lémon de la Caisse de dépôt était absent, alors que le PDG d'Hydro-Québec, là, Mme Claudine Bouchard, y était. Est-ce que c'est...
un signe?
C'est ça. Donc, ça va être à suivre, mais c'est toujours un débat récurrent, là, les gouvernements, il y a plein d'argent là. On est tenté de dire qu'on va s'en servir pour développer notre économie, mais
je pense que c'est important de ne pas politiser la caisse, là, puis de la laisser faire son argent, faire fructifier le bas de laine, justement, puis assurer une bonne retraite à tous les travailleurs et retraités du Québec.
Ça va générer... oui, allez-y.
Ben, je voulais juste dire, conclure, là, je suis en accord avec peut-être les deux premiers éléments de la stratégie, mais le troisième, là, pas vraiment.
Bon, alors tous ces investissements-là, ça va créer de l'emploi?
Bien, c'est un peu le but là, de développer l'économie, de la croissance, créer de l'emploi. Si tous les projets prévus voient le jour, on va même avoir du trouble. Là. Je donne comme exemple juste Hydro-Québec. On prévoit ajouter 35 000 nouveaux emplois par année jusqu'en 2035, plus seulement pour les chantiers d'Hydro-Québec, 7 000. Donc, puis ça, c'est pour 2026. Alors, c'est énorme. Puis on sait, le taux de chômage au Québec est relativement faible, à 5,3%. Ailleurs, au Canada, il est à 6,9%. Donc, on n'est pas comme en grosse période de chômage. Donc, d'où vont venir tous ces travailleurs-là? Il va y avoir des pressions sur les prix, parce qu'à un moment donné, si on construit, les coûts de construction vont augmenter. Déjà, ils sont très élevés. On resserre les seuils d'immigration. Donc, ça, c'est... ça va mettre de la pression. Puis peut-être que je voulais attirer l'attention, on n'a pas vraiment parlé, mais il y a quelques semaines, l'Institut de la statistique du Québec a publié ses projections démographiques pour le Québec. Et puis c'est passé peut-être un peu sous le radar. Là, on en a parlé un petit peu dans les journaux, mais pas beaucoup. Puis la première fois en 2024, donc la première fois depuis très longtemps, je dirais sûrement depuis qu'on calcule les statistiques, le nombre de décès au Québec est supérieur au nombre de naissances.
Ah oui.
Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Les projections démographiques, on prévoit que la population du Québec atteindra environ 9 millions vers 2035. Donc il y aurait quand même une certaine croissance. J'aurais dû regarder le chiffre. On est en haut de 8 millions, là, mais on n'est pas à 9 millions. Donc, il y aurait une croissance jusqu'en 2035, puis après, ça se stabiliserait pour les prochaines années. Juste l'an dernier, les prévisions, c'était 9,4 millions pour 2035. Ça veut dire que juste en un an, on a baissé notre prévision de la population de 400 000, ce qui est énorme. Là. Donc ça, c'est pas un bon signe pour l'économie du Québec. Le taux de fécondité a chuté à 1,38 enfants par femme. C'est le plus bas niveau en 20 ans.
Bon, alors comme vous dites, c'est pas une bonne nouvelle.
Non, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Une population qui décroît, ça a un impact sur la croissance, sur les finances publiques. On a une population vieillissante et un système de santé. Pas besoin d'en parler. On en parle partout, là. La manchette, ça craque. On parlait de la caisse de dépôt, il faut payer les retraites. Les régions qui sont souvent affectées par une baisse de la natalité, là, parce qu'il y a toujours un exode vers la ville. Donc, c'est pas une bonne nouvelle que la population décroisse. C'est difficile de réconcilier avec la vision du premier ministre puis toutes ses projections là, de ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de recette miracle. Si on veut essayer de remplir nos objectifs, nos aspirations économiques, soit il va falloir augmenter l'immigration, là, moins qu'on se mette à faire la plaie de bébé tout d'un coup, ou devenir beaucoup plus productif. Et ça, le Québec et le Canada, on traîne la patte, notamment versus les États-Unis au niveau de la productivité. Ou bien notre prospérité collective va être appelée à diminuer dans les prochaines années ou décennies. Là. Donc c'est un peu alarmant. Je pense qu'il y a une réflexion à faire là. On n'est pas le seul pays dans cette situation-là. La France, l'Allemagne, le Japon, même la Chine, là, je me souviens, il y a un an, on parlait que la population de la Chine pourrait commencer à décroître. Souvenez-vous, là, il y a eu à un moment donné, des politiques de dénatalité, là, où on voulait qu'il n'y ait pas beaucoup dans chaque ménage, il n'y ait pas beaucoup d'enfants, puis on favorisait pas trop les filles aussi. Mm-hmm. Là. Donc,
mais là, c'est plus le cas.
Pardon?
Ce n'est plus le cas.
Non, c'est ça, mais ils commencent à en payer le prix parce que veux pas, tu fais des politiques comme ça, mais les impacts, c'est vraiment à long terme.
Il y a des conséquences. Alors,
il y a des conséquences à long terme. Puis là, la croissance de la population, la Chine même commence à plafonner, puis sa population diminuer un peu. Donc, on n'est pas le seul pays là-dedans, mais c'est pas parce qu'ailleurs ils sont là-dedans que nécessairement c'est bon signe pour nous, ces facteurs démographiques-là. Donc, il faut tout ça. On a des aspirations économiques, on a notre fameux modèle québécois, on veut tout faire des ça, on veut tous être riches, on veut que le gouvernement réduise les inégalités et investisse dans les services publics, etc. Mais en même temps, la démographie ne suit pas.
Bon, alors, sur ces propos, pas tellement encourageants, mais il faut être réaliste. Merci beaucoup, Michel. Faisons des bébés, puis réfléchissons à soit augmenter l'immigration, comme vous le dites, devenir plus productif, ou les deux. On verra bien.
Non, exactement. L'immigration, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Puis malheureusement, il y a une espèce de ressac contre l'immigration là, qui, je pense, qui est maladif, en tout cas, malsain.
Ouais. Merci, Michel. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonne semaine et à la prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Toi, tu dessines d'un trait sans une hésitation de chacun de tes gestes la plus belle des fresques. Moi, je tente de rester puissant comme un glacier prêt à faire naufrager mon désir titanesque. Toi, tu roules comme une vague, viens inonder ma vie, ravageant tout autour, mettant fin aux sécheresses. Moi, je tente en vain la fuite pour m'éloigner de toi, mais ces peines perdues, je suis lassé d'ivresse. L'amour coule dans nos veines, on s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, vite prends-moi dans tes bras. Toi, tu parles sans parler, jouant des éléments, usant de langage venant d'une autre planète. Moi, sans même savoir comment je réponds en silence et se déclenche en moi de superbes tempêtes. Toi, tu joues avec la vie comme le ferait un enfant faisant fi de tous les secrets, tous les mystères. Moi, je crois t'avoir croisé une nuit dans un rêve perdu quelque part entre Saturne et la Terre. L'amour coule dans nos veines, où s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, prends-moi dans tes bras. Toi, tu chantes de ta voix des idées voyageuses tel un explorateur venu d'un autre monde. Moi, je reste subjugué devant tant de beauté, je suis paralysé par d'admirables ondes. Toi, tu propages dans l'air des parfums de bonheur comme des odeurs de fruits inconnus ici-bas. Moi, je peux lire dans tes yeux tes secrets, tes passions, tous ces rêves qui dorment depuis toujours en toi. L'amour coule dans nos veines, on s'est trouvé toi et moi. Nous ne serons plus jamais les mêmes, vite prends-moi dans tes bras. C'est l'amour qui nous emmène en exil, toi et moi. Une contrée lointaine où on ne reviendra pas.
La chanson « Dans nos veines » de Pierre Lapointe.
Qui a remporté le Félix de l'artiste masculin de l'année et qui a chanté le soir du gala cette merveilleuse chanson issue de son plus récent album. En novembre, le mouvement Santé mentale Québec nous invite à faire la fête des voisins au travail. Et pour en parler, je joins Chantal Doré, une voix que vous connaissez bien, auditeur, auditrice de Canal M. Bonjour Chantal.
Bonjour Hélène, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Chantal, vous avez failli venir en studio, mais là la neige fait en sorte que vous avez pris la bonne décision, mais au moins vous êtes avec nous. Qu'est-ce qui vous a amené, Chantal, à Mouvement Santé Mentale Québec?
C'est un mandat. Il y a 10 ans, j'avais contribué avec le mouvement santé mentale à instaurer cette fête-là des voisins au travail. C'est un concept, en fait, qui vient de la France et qui est inspiré un peu de la fête des voisins qu'on connaît bien dans nos quartiers.
Oui.
Et on nous a donné le mandat au mouvement santé mentale de créer quelque chose de similaire là, pour nos voisins de bureau. En fait, quand on parle de nos voisins au travail, c'est à la fois nos collègues, mais ça peut aussi être les personnes qui travaillent dans le même immeuble.
Souvent qu'on ne connaît pas du tout.
Exactement. Donc, de créer des liens entre ceux qu'on côtoie au travail.
Alors, donnez-nous des idées là, pour participer à la fête des voisins au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire? On cogne à la porte de notre voisin, notre bureau voisin, pas nécessairement notre collègue, là, mais ça peut être notre collègue, comme vous le dites, mais ça peut aussi être une autre entreprise qui est dans le même immeuble.
Bien, tout à fait. Au Mouvement Santé Mentale Québec, on fait une fête, justement, qui est tout simplement un lunch hein, partagé avec les différentes entreprises et organismes qui sont présents dans le même immeuble que nous. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça crée une belle ambiance dans l'immeuble quand on vient travailler. Ça nous donne envie de venir parce qu'on crée des liens. Mais avec nos collègues, c'est que c'est tout simplement un moment simple, un moment rassembleur qui est festif, oui, mais beaucoup plus que ça. C'est que, évidemment, tout ce qui est sécurité psychologique, la confiance, elle se crée dans les liens informels. Donc, quand on connaît mieux nos collègues, ben, il y a plus de chances là, qu'on puisse vivre plus, en fait, des bonnes émotions, qu'on puisse mieux communiquer si on connaît mieux nos collègues. Et là, on se dit, si on a l'habitude de luncher, déjà avec nos collègues, ben peut-être de profiter, entre autres, on a des astuces, on a un bingo en ligne qui nous permet de poser des questions à d'autres collègues, parce que si on lunch souvent ensemble, des fois, on s'assoit toujours avec les mêmes collègues, et on donne l'occasion de parler à des gens qu'on connaît moins.
Puis, ouais.
C'est une invitation, parfois, quand on lunch devant notre ordinateur ou rapidement, un coup de vent, ben, de s'asseoir ensemble, de prendre le temps de se recharger. C'est en lien aussi avec notre campagne annuelle là, qui indique l'importance de se recharger pour une bonne santé mentale. Donc, c'est vraiment un moment tout simple. Je parle de lunch, mais ça peut être une distribution de beignes, une pause café, un apéro. J'allais dire une marche, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais ça peut se faire aussi en ligne. Donc, on a aussi des quiz en ligne si les gens sont en télétravail qu'on peut faire pour animer notre réunion. Puis l'idée, c'est ça, c'est de raffermir nos liens. Ça nous aide à atténuer les risques psychosociaux.
Et puis, Chantal, vous parliez de bingo en ligne. C'est quoi exactement? C'est pas I-37, là?
Non, mais c'est pour poser des questions. Par exemple, une des cases, ça pourrait être « Qui est l'aîné de sa fratrie? Qui n'aime pas le café? Qui a vécu dans un autre pays? » Donc, ça nous amène à poser des questions à nos collègues pour remplir un peu nos cases de bingo, pour faire en sorte, là, c'est un petit moment festif, oui. Amusant, mais ça nous donne une entrée pour discuter puis poser des questions à nos collègues. Puis après ça, ben la magie opère. On apprend à mieux connaître des gens qu'on connaît moins.
Nous, on avait joué, mais là, on ne jouera pas cette année parce que c'est trop tard. Mais quand arrivera la première neige? Puis là, ben ça nous permet de de parler de notre rapport à la neige. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Et il y a aussi le jeu brise-glace que j'ai vu sur votre site.
Oui, ben c'est encore là, c'est toutes sortes de petites questions, de petites questions simples, parce que souvent on a besoin justement d'un petit brise-glace. On a besoin que ça passe par le jeu pour se parler. Il y en a qui ont ça naturel de se poser des questions, mais des fois par l'intermédiaire d'un jeu, ben ça nous permet plus facilement là, de nourrir ces liens-là.
Fait oui.
C'est tout simplement des petites astuces là pour créer des liens puis apprendre à connaître mieux nos collègues.
Briser la glace, justement.
Absolument. Puis bon, on a parlé beaucoup ces derniers temps du raffermissement au niveau des lois autour de tout ce qui est risques psychosociaux au travail, de harcèlement et autres. Mm-hmm. Et on prétend pas qu'une fête des voisins au travail vient tout changer, mais c'est déjà un premier pas
Aller dans la bonne direction, là.
Oui, bien, en fait, pour faire en sorte que dans l'informel, il se crée des liens de confiance. Puis quand on a confiance, quand on se sent en sécurité psychologique, c'est plus facile de nommer ça avec quoi on n'est pas confortable. Mm-hmm. Ça ouvre la porte, là, à, c'est ça. À,
au lieu de garder tout en dedans, puis générer des émotions négatives, puis se rendre jusqu'à l'épuisement, là, parce que c'est une réalité aussi, le burn-out au travail.
Oui, puis c'est un peu pour ça qu'on a choisi se recharger cette année comme astuce de notre campagne annuelle, parce que quand on est à bout de souffle, ben, hein, on est inspirant ni pour soi ni pour les autres. Puis après, ça prend encore plus de temps à arriver à se recharger. Fait que d'instaurer des petits moments comme ça de recharge. Tu sais, on le fait avec notre cellulaire, puis on laisserait jamais notre cellulaire être complètement déchargé.
C'est vrai.
On a moins tendance à le faire pour nous-mêmes. Fait que c'est une invitation que le mouvement santé mentale souhaite faire. Je dis nous, mais en fait, on est un regroupement de 16 organismes membres à travers le Québec et d'organismes de soutien. Puis on a toute la même mission, c'est de promouvoir, soutenir, outiller en matière de santé mentale.
Et est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce qu'il y a beaucoup de participants d'une année à l'autre? Parce que vous me disiez tantôt que ça fait au moins 10 ans que ça existe, la fête des voisins au travail, là, ici au Québec.
Oui, bien en fait, on a comme un bon noyau d'une cinquantaine d'organismes là, qui la refont chaque année. C'est sûr que comme on ne nous dit pas nécessairement si on le fait ou pas, on pense que ça a fait l'idée a fait des petits à bien des endroits, parce qu'on fournit justement ces astuces-là pour dire si vous faites déjà quelque chose, ben voici peut-être comment vous pouvez donner encore plus de sens à la fête. Sur notre site Internet, on a aussi des invitations déjà toutes prêtes, qu'il s'agit simplement d'indiquer la date puis le lieu. Ce qu'on sait comme statistique, et c'est la plus importante, c'est que toutes les organisations participantes nous ont dit qu'à 88%, organiser une fête des voisins au travail avait contribué à améliorer les liens et souder les rangs en équipe.
Bon, donc, mission accomplie.
Ça parle.
Oui. Et c'est pas obligé d'être compliqué, comme vous le disiez tantôt, là, un café, un bain, partager un repas. Mathieu, à chaque fois qu'on parle, mon metteur en onde que vous connaissez bien, Chantal,
oui.
À chaque fois que je dis le mot bain, il y a le grand sourire aux lèvres. Alors, je pense que ça fonctionnerait pour lui.
Ben, est-ce qu'on peut se passer d'un sourire d'un Mathieu, d'un Stéphane,
non.
D'une Hélène? Hein?
Non, c'est non. Ça. Et Mouvement Santé Québec Mental organise aussi un concours dans le cadre de la fête des voisins au travail.
Oui, en fait, toutes les organisations participantes ont fait tirer une conférence ou un atelier sur la santé mentale. Donc, on existe depuis 70 ans, le Mouvement Santé Mentale Québec.
Déjà.
Donc, déjà. Donc, c'était important à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui. Nos conférences sont réalisées avec des experts, des spécialistes. On est aussi accompagnés par des chercheurs. Donc, on est vraiment des spécialistes là, de la santé mentale. Puis, tu sais, finalement, c'est tout simplement un équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie. C'est d'avoir accès à nos ressources et sur notre site Internet, on a tout plein de vidéos, de conférences, de webinaires, d'outils pour la population aussi. On a des campagnes jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de ressources là, qui nous aident à cultiver une bonne santé mentale.
On invite les gens à faire mieux connaissance, si ce n'est déjà fait avec le Mouvement Santé Mentale Québec. Vous avez un site Internet, j'imagine.
Oui, c'est Mouvement, donc Mouvement en un seul mot, SMQ. Puis pour la fête des voisins au travail, c'est fêtedesvoisinsautravail.ca.
Bon, alors bien, bonne fête des voisins au travail à vous, Chantal Doré. Et j'invite les gens à écouter ou réécouter vos émissions qui sont sur notre site Internet de Canal M, évidemment, Inclusion Inc. et les héros anonymes et sur différentes plateformes. Merci Chantal, la prochaine fois, viendra en studio.
Oui, avec plaisir Hélène. Bonjour à tous, à bientôt.
Bye bye. Elles ont donné tout un spectacle au Gala de la Disque dimanche dernier. Je parle d'Ariane Roy et Lou-Adrienne Cassidy. Lou-Adrienne Cassidy qui a à peu près raflé tous les Félix qu'il y avait à distribuer. On les écoute dans Filles à portée et tout de suite après, ce sera la chronique livre avec Anne-Marie.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je creuse et je sonde tout.
À porter, c'était Ariane Roy et Lou-Adrienne Cassidy.
C'est le moment de la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Novembre, c'est la saison des prix littéraires et justement, vous avez lu pour nous deux livres, un doublé pour Laurie Léveillé qui a remporté le prix littéraire du gouverneur général, catégorie jeunesse, texte et aussi l'autre titre, c'est, j'étudie un doublé de... Oui, parce qu'elle a, elle a remporté pour son livre Cuba, mais elle a remporté deux prix.
Voilà.
Et puis l'autre, c'est Katia Bel-Kodja, qui elle aussi a remporté le prix du gouverneur général, cette fois dans la catégorie romans et nouvelles, et elle est finaliste pour d'autres prix littéraires. Alors, des livres qui vous ont passionné, je pense.
Oui, que j'ai lu rapidement parce que c'est le 4 novembre que j'ai su que Cuba était le titre gagnant du prix Alvin Bellil remis par les milieux documentaires et le 6 novembre, ben, le prix du gouverneur général. Alors, il faut savoir que c'est dans une petite collection qui s'appelle Micro. Micro parce que c'est très court, 71 pages. Et la courte échelle écrit qu'elle fait des textes qui sont très près de la langue orale pour questionner, s'indigner, révéler, dénoncer, témoigner ou simplement déposer des mots là où ça fait du bien. Parce qu'effectivement, on traite des sujets pour adolescents tout à fait d'actualité, des sujets coup de poing, dans un style oral qui permet finalement de rejoindre peut-être des non-lecteurs, en tout cas des lecteurs qui n'attaqueraient pas une brique. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là de Laurie Léveillé? Bon, ben d'abord, je la connaissais pas. C'est une très jeune autrice qui a 30 ans, qui est née en Estrie, puis qui a fait l'École de l'humour et l'École nationale de théâtre. Elle a écrit des pièces, surtout elle travaille avec le public jeunesse, et elle raconte une soirée d'Halloween où il y aura finalement un problème parce que deux jeunes filles qui sont des amies de toujours se déguisent une en ange, une en diable. Elles puis une, il va vraiment à reculons. Ça, c'est la narratrice qui s'appelle Sam. Tout est raconté par elle. Même si parfois, il y a des dialogues qui sont intégrés, c'est comme un monologue, tout ce texte-là. Et elle va subir une agression sexuelle. C'est que pendant la soirée, bon ben, les gens peuvent donner des billets à d'autres, mais ils sont tous déguisés, là, et leur donner des rendez-vous intimes. Alors, ce qu'elle sait, c'est que sa meilleure amie, qui l'a traînée jusque-là, qui s'appelle Léa, ben, je suis un garçon qui a donné un rendez-vous intime au sous-sol. Et elle reçoit, un peu plus tard, elle aussi, un billet de rendez-vous intime au garage dans une heure. Elle ne sait pas trop si c'est une blague, elle se demande qui est-ce que c'est qui a bien pu lui envoyer ça. Puis c'est plus fort qu'elle, curieuse, elle va y aller, et c'est là que tout va se passer. Donc, à partir de là, elle garde ça secret pendant un certain temps, puis elle va finir par le dire à sa meilleure amie, qui va se sentir très coupable de ne pas avoir été à côté d'elle et de ne pas avoir vu ça. Et ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Et je cite, « Aujourd'hui, son amie Léa, elle est tempête, grêle, puis grand vent. Debout devant moi, elle est un fleuve pas tranquille du tout. » Alors, elle veut se venger. Elle est dans une colère terrible. Puis elle va lui montrer les photos des gens qui étaient là, mais elle, elle a eu ça, c'est arrivé dans son dos. Alors, il faisait noir, la personne l'a pris de dos, elle a senti son parfum cheap, et sa gomme balloon ou saveur de fruits, mais elle ne l'a pas vu. Puis elle a fini par se sauver, évitant le pire. Et puis là, ben, c'est ça qui est le punch, c'est quand à la fin, on apprend tout le... la fin de le dénouement de cette énigme.
Le nom de l'agresseur? Ouais. L'identité, oui.
C'est ça. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elles vont faire? Son amie, elle va faire des cours d'autodéfense. Elle veut vraiment lui casser la gueule, mais elle dit non, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Alors, c'est très, très bien fait. Ça va susciter de belles discussions. Un très beau roman à mettre dans les mains de tous les adolescents. Pour les mettre en garde, il arrive trop d'histoires semblables à celle-là. Et puis, bon, ben, voilà.
Kuba, aux éditions La Courte Échelle, c'est un livre que Laurie Léveillé a signé et pour lequel a remporté le prix Alvin Bellil?
Alvin Bellil, oui.
Et
oui.
Le prix littéraire du gouverneur général. L'autre livre, c'est un livre dont on parle assez... Ben, j'en ai entendu parler la semaine dernière parce qu'il est finaliste pour le prix Radio-Canada Caroline Dawson et il vient de remporter le prix du gouverneur général. Il s'agit de « Les déterrés ».
Oui, de Katia Belkodja. On saura vendredi le 21 novembre qui a gagné le prix Caroline Dawson, mais ça pourrait être celui-là parmi quelques autres très intéressants aussi. Alors, le roman s'appelle « Les déterrés » chez Mémoire d'Encrier, 400 pages à peu près. Alors, ce livre-là, c'est pas simple. C'est vraiment une brique dans ce sens que Katia Belkodja a finalement toutes les archives familiales chez elle pendant un bon moment, sans doute. Elle a fouillé tout ça. Elle est aussi la plus jeune de 4 générations de femmes qui, finalement, ont vécu là-bas. D'autres ont immigré ici au Canada, comme elle dit, même s'ils sont au Québec, dans la banlieue de Montréal. Il est toujours question du Canada, parce que pour les gens qui viennent d'ailleurs, le passeport canadien, ils sont très contents de vivre au Canada. C'est leur identité. Et puis, elle s'appelle Rim, l'autrice, dans le livre. Du moins, on pense que c'est elle. Et elle raconte comment, à l'âge de 10 ans, à peu près 9-10 ans, elle va venir vivre ici. Il est question, bien sûr, d'immigration, de guerre, de violence, de cet héritage familial très lourd, de la volonté de la transmission de ces traditions-là dans cette société moderne dans laquelle elle vit maintenant. Et puis, bon, ben, le livre s'est constitué de fragments. On a l'impression, ça c'est moi qui dis ça, qu'elle a écrit chaque jour un peu des souvenirs comme ça à mesure qu'elle fouillait les photos, les archives familiales ou qu'elle a eu des conversations avec la famille et que tout ça, ça a constitué des fragments qui sont impossibles à résumer, cette histoire-là, c'est vaste. Et puis ça, c'est réuni en 3 parties. La première partie, c'est l'enfant de Lunja, ben, c'est elle, la narratrice, qui est l'enfant de Lunja. Et on apprend donc toute l'histoire de ces gens-là en Algérie. Ensuite, il y a les enfantômes, référence à Régent Ducharme, qui parle de ceux qui sont des fantômes, finalement des enfants d'autrefois. Puis les déterrés, ben, c'est en référence à la terre, les racines, mais aussi à ces déterrés ES, donc ces femmes qu'on essaie d'effacer de l'histoire et qu'elle va faire revivre. Donc, c'est un récit, c'est une saga familiale, puis qui est Puis elle, elle est très effacée là-dedans, l'héroïne qui s'appelle Rim, elle raconte. C'est celle qui a écouté, qui sait, qui fait des recherches, qui raconte avec beaucoup de verve, de passion, d'intensité et d'émotion ce qu'était cette vie-là d'avant dans sa famille. Et elle dit, je la cite, « Les mémoires d'Azias, c'est ma tâche de les débroussailler. Quand un grand-père fait des alexandrins pour le plaisir, c'est à l'écrivaillon de la famille qui choue le carton rempli de vieux cahiers, de photocopies, de duotangues, de cartes, de lettres. C'est à moi de faire l'inventaire, de lire, d'envoyer aux cousins respectifs les passages qui les feront pleurer. » Alors, sans doute que ça a dû être beaucoup d'émotions de raconter tout ça. Puis pour pas se perdre, ben, au début, il y a un arbre généalogique des personnages que moi j'ai copié. J'ai copié sur une feuille. J'ai même augmenté avec des notes. J'ai annoté pour pouvoir me retrouver dans tout ça. Et puis ça se passe en deux temps. Il y a des gens qui immigrent en 96 et d'autres en 98 vont suivre. Et c'est le cas de sa mère et elle. Elle dit, je la cite, « Lunja, ma mère et moi, nous les avons rejoints puisqu'il faut toujours se rejoindre, puisque nous ne pouvons pas vivre les unes sans les autres. » C'est vraiment très beau. C'est plein d'anecdotes, d'observations, de commentaires. C'est dépaysant à souhait. Quand cette personne-là, qui n'est pas très vieille, là, nous raconte ses étés chez le grand-père dans la montagne, avec les olives, les figues, puis bon, ben, la chaleur, c'est incroyable comment on est loin d'ici, là. Et bien sûr, il y a des répétitions qui sont là comme un leitmotiv. Par exemple, son grand-père, ancêtre, disait « On peut tout te prendre, sauf ce que tu as dans ta tête. » Et ça, ça revient à quelques reprises et c'est comme si finalement, ça lui appartenait, tout ça, et elle avait le devoir de le transmettre. Et ça, c'est très beau, la transmission, comment elle hésite de parler de l'Algérie à son enfant d'une manière réaliste. Ça lui parle de la crème glacée. Mais elle dit, je ne peux pas lui raconter les guerres et tout ça. Alors peut-être que pour les enfants futurs, il fallait écrire tout ça pour pas que ça se perde finalement. Et elle vit avec ça comme imprégnée. Elle dit, je la cite, Inès dit qu'on naît avec les guerres de nos parents marquées dans l'ADN des cellules. Il y a des femmes là-dedans, des femmes fortes, intenses, qui sont là pour assurer la transmission auprès des enfants. Il y a aussi tout le souci de faire comme en Algérie, pour pas perdre tout ce qui est à soi, tout ce qui est notre culture. Alors le ramadan, le thé à la menthe, les dates. Il y a aussi des points humoristiques, parce qu'il y a quand même la guerre, des fusillades, des affaires très, très violentes là-dedans. Mais de temps en temps, elle nous lance des petites choses drôles. Par exemple, quand on lui demande à Rim, l'héroïne, d'où vient son accent, elle dit « Moi, je viens de Brossard. » Alors donc, ça déroute les gens qui essaient de lui trouver une nationalité. Puis aussi, à un moment donné, il y a une scène à l'école où quelqu'un veut aider Inès, je crois. Puis elle dit « Veux-tu l'aide? » Puis avec l'accent, elle a compris de l'ail.
Ah oui?
Pourquoi on lui offre de l'ail? Elle dit « C'est-tu si populaire que ça, l'ail ici? » Puis ensuite, ben, elle se moque de tous les garçons qui ont des prénoms masculins, comme Jean-Pierre, Jean-Christophe, Jean-Philippe. Ils s'appellent tous Jean quelque chose, puis c'est vrai qu'on en a beaucoup. Il y a des observations sur notre mode de vie, nos façons de faire, nos traditions, les ventes de garage, c'est sa volonté de s'intégrer. Puis souvent, ben, c'est ça, on se retrouve là-bas. Elle nous amène dans son pays avec les odeurs, les parfums, les épices, la chaleur. Et la nourriture occupe une place très importante dans cette famille, comme toutes les familles immigrantes qu'on peut lire à travers des livres, mais qu'on voit aussi, puis qu'on rencontre. La transmission est très, très importante.
Qu'est-ce qu'on mange des yeux dans ce livre-là?
Oui, puis ça...
Qu'est-ce qu'on mange dans des yeux dans ce livre-là? Est-ce que vous avez un plat qui vous vient en tête?
Ben, le couscous.
Oui.
Et d'ailleurs, ça lui permet de se moquer de Ricardo qui mange du couscous avec du pain. Non, c'est deux pays qui n'ont rien à voir. Puis effectivement, ça ne va pas ensemble.
Tout se peut.
Oui, tout se peut. Tout est libre, effectivement. Je dirais qu'il y a une parenté avec Caroline Dawson.
Bien oui.
Il y a une parenté avec Alain Farah.
Mm-hmm.
Et moi, ça m'a fait penser à une conteuse algérienne que j'ai rencontrée lors d'un festival qui s'appelait Aïnifitène, qui racontait des histoires semblables à ça. Alors moi, pour tout ce travail effectué, je dis bravo, chapeau. Et je vous invite à lire ce livre qui se dévore. Hein. Il n'y a pas une trame avec un début, une intrigue, puis une fin. C'est plein de petits tableaux. Puis on apprend à connaître ces gens-là qu'on aime, auxquels on s'attache, parce qu'elles, elles les aiment et ça se sent dans l'écriture, dans la volonté de leur rendre justice aussi. Bref, je pourrais en parler des heures.
Vous avez adoré.
J'ai adoré.
Oui, je pensais aussi, vous avez évoqué Alain Farah, Caroline Dawson, Abla Faroud aussi, le bonheur à la queue glissante. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, ce livre-là.
Oui, puis j'irais aussi avec Éric Chacot. Bref, tous ceux qui nous racontent leur immigration. Ouais. Ça nous touche. On comprend ce que ces gens-là ont vécu. Puis pour avoir travaillé avec des gens de différents milieux, de différents pays, on comprend tout ce qu'ils ont fait pour venir ici, les sacrifices. Alors,
et tous les préjugés aussi, hein, parce que même s'ils sont installés depuis belle lurette au Québec, même s'ils sont nés ici, mais avec un nom qui n'est pas Tremblay ou, je sais pas, là,
voilà.
Tessier, ben, elle disait, Katia Belkodjia, même si j'écoutais la bottine souriante, même si je disais que j'écoutais la bottine souriante à tous les jours, on me regarderait encore comme une immigrée, une qui ne fait pas partie de la gang, là, entre guillemets.
C'est long de pouvoir être intégré, puis ça...
Ça finit jamais, on dirait.
Exactement. Ouais. Fait que, bref, allez lire ça, c'est une très belle lecture.
Ah oui. Alors, ben merci Anne-Marie pour ces deux suggestions. Vous nous parliez de Les Déterrés, publiés aux Mémoires d'Encrier. C'est pas son premier roman.
Non, elle en a écrit deux autres chez XYZ.
OK. Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Capturer cette douceur pour qu'enfin coule la rivière dans laquelle je vivrai toute ma vie. Doux, que c'est doux. Doux, que c'est doux. La fureur de vie des amoureux. La fureur.
Chanson doux de Marjo.
Oui, Marjo qui a célébré ses 50 ans de carrière dimanche au Gala de la Disque en chantant un medley des extraits de quelques-uns de ses plus grands succès. À 72 ans, elle est toujours électrique. Et au début de la présentation de ce medley-là, on voyait des extraits de Marjo à l'époque de Corbeau et en entrevue, elle disait, moi, ben non, je me vois pas chanter jusqu'à 50 ans. Elle débarque à 72 ans. Tout de cuir, vêtu, et ça déménageait. Alors, là-dessus, une petite suggestion théâtrale qui me semble vraiment intéressante. Il y a d'ailleurs une entrevue aujourd'hui accordée sur ce spectacle-là qui s'intitule « Dans le vieux monde, derrière nous ». Trois artistes phares de la scène québécoise qui donnent vie à une fresque intime et historique où le voyage d'un jeune homme en 1968 est revisité des années plus tard par son fils. La pièce est une adaptation du récit du même titre d'Olivier Quémède. L'œuvre s'inspire de la correspondance réelle de son père, Gilles, écrite à l'aube de sa vie adulte lors d'un voyage solitaire entre Montréal et le Proche-Orient. Le titre, donc, c'est « Le vieux monde derrière nous ». Et c'est Mani Soleil-Manlou, excellent acteur, qui est seul en scène. Et selon le metteur en scène, assisté par Stéphanie Jasmin, qui, elle, fait partie donc des créateurs de coulisses qui ont participé à l'élaboration de ce spectacle-là. Denis Marlowe écrit « C'est un voyage à l'envers que son fils Olivier entreprend 45 ans plus tard, relisant les cartes postales et lettres expédiées par son père à Carole, la jeune femme qu'il vient de rencontrer à Expo 67. Une histoire d'amour et de filiation qui se rembobine sur scène comme une bande dessinée joyeuse et émouvante et toujours pleine d'imprévus. » Alors, si ça a piqué votre curiosité, bien, ça se passe au Centre du théâtre d'aujourd'hui sur la rue Saint-Denis, Le vieux monde derrière nous, dans la salle, la plus grande salle de ce centre-là, Michel Rossignol, et c'est présenté à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 6 décembre.
نحبها بالهبال فين نكون ما ننساها عالجي عالجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلانش قلبي plein de tristesse ما ينسى qu'en revanche Où es-tu place du gouvernement
عمره بحبابي ونكون غريب بلان
Ça nous met dans l'ambiance. Merci Mathieu. Il y a une exposition qui réunit 10 artistes en situation de handicap de premier plan des deux pays qui jette les bases d'un échange culturel durable. Dans le cadre de l'année des échanges culturels Corée-Canada 2024-2025, une initiative conjointe d'échanges artistiques axée sur le handicap est menée grâce au soutien du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée et du patrimoine canadien. Et dans ce cadre, l'exposition qui s'intitule « Corée fois Canada, art et handicap, repenser les frontières et les possibles » après une tournée réussie dans 3 villes canadiennes, ce sera présenté au Modu Art Space à Séoul à partir, depuis le 5 novembre et ce jusqu'au 4 décembre. Pendant 2 semaines, 10 artistes majeurs en situation de handicap provenant des deux pays ont partagé leurs pratiques à travers des expositions, des conférences, des ateliers, des activités collaboratives, échangeant leurs points de vue et célébrant les valeurs d'inclusion et de créativité au-delà des distinctions liées au handicap. L'exposition intègre de nombreuses mesures d'accessibilité, dont des descriptions audio pour les affiches, des textes en braille et des guides faciles à lire, afin de supprimer les obstacles entre les publics et de créer un espace d'appréciation ouvert à toutes et à tous. En repoussant les frontières, artistes et visiteurs explorent de nouvelles formes d'empathie et de dialogue fondées sur la compréhension des différences. Merci beaucoup d'avoir été là. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée sous la neige. Merci Mathieu Tessier. On se retrouve mardi prochain. Demain, c'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous. À bientôt. Portez-vous bien.